Il s'apprêtait à flotter ou presque. C'était une de ces journées opaques et je m'en souviens parce qu'à l'époque, je venais, comment dire, de littéralement me faire éjecter de cours. Et j'avais, comme qui dirait, un besoin urgent de mettre certaines de mes idées noires au clair. Notamment après une austère, voire sordide leçon d'histoire. Tenez, d'ailleurs écoutez ça, c'est à cet ordre. En fait, le pas très fut-fut prof, remplaçant ceci dit en passant, pensait sans doute nous distraire en abordant le, je cite, fameux mythe du bon colonisateur. Mais perso, ce qui profondément m'irrite, c'est lorsqu'un pseudo-enseignant entre autres m'explique que si aujourd'hui l'Afrique est percluse d'affres, voire de saignements, c'est parce que dans le fond, la France n'est pas allée au bout de son enseignement. Ces paroles avaient été prononcées avec une telle ferveur que la seule phrase que j'avais envie de rétorquer avant de prendre la porte, c'était « Va te faire voir ». Et c'est dingue, ce qui me sidère, c'est que personne n'ait encore, pour ainsi dire, osé parler des déboires de la colonisation. Parce que ce que je pense dans le fond, c'est que c'est comme lorsqu'il s'agit de boire de l'alcool. Après, ce qu'on préfère, c'est nier les actions. Et si je vous parle de cet incident, de façon si insistante, c'est que j'avais réellement le sentiment, ceci dit, de m'être fait incendier. Et c'est peu dire, car peu de temps après avoir quitté le cours, alors que je marchais sur l'avenue, légèrement vanné, à contresens des pantins, je sentis une pluie battante s'abattre. Je n'avais qu'une hâte en voyant la sale teinte du temps, c'était faire une halte quelques instants dans le café d'en face, pour reprendre des forces. En entrant dans ce bar, j'entendais un homme probablement déjà plein de bière accoudé au comptoir, conter aux quelques personnes présentes une de ces pesantes histoires de retour en charter. Alors sans trop réfléchir, je sortis une de ces vieilles feuilles rêches qui traînait sans doute depuis la veille dans le fond de ma poche. Pour au départ, y déposer avec tact deux trois syntaxes qui peu à peu donnèrent naissance à ce texte-ci. À tous ceux qui ressassent sans cesse tout un tas de récits miteux tels que le fumeux mythe des races, je préconise de relever un défi assez féroce, à savoir celui de la différence. Car mon souhait à ce jour n'est pas tant de servir d'étendard, simplement si je passe autant d'heures à écrire, à y croire, c'est surtout pour entendre dire, non sans saveur, que tout être humain sur cette terre peut être détenteur d'un certain savoir. Car inutile de se leurrer, c'est unanime, rien n'a plus de valeur que le respect de la personne humaine. Et c'est ainsi que j'abandonnais cette feuille criblée d'encre sur le rebord du comptoir pour me décider, une fois apaisé, à ressortir du bar. La pluie avait en effet fini par cesser de baver sur les trottoirs.
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Et merci à Mehdi pour ce beau texte qui me bouleversera toujours. Merci, merci. Et nous voilà donc de retour chez le Fleubeleub, chez Grégory, Jarry et Otto T, qui vont nous raconter aujourd'hui la crise et autres plaisanteries. D'abord, je vais vous remercier tous pour les plus de 200 visites et podcasts que vous m'avez fait comme cadeau de Noël sur le site de Canal Sud. C'est la gloire, ma parole. Merci à tous, merci beaucoup. Et ça m'encourage à continuer à jouer les Pères Noël avec le Fleubeleub. Vous en aurez pendant toutes les vacances. Voilà. Donc, la crise, disais-je. Ce chapitre 4 s'ouvre sur une double page qui présente deux photos, ce qui est très rare dans ces BD. Alors, ce sont des photos de, disons, de monuments à la gloire de l'industrie. Parce qu'on peut définir ça comme ça. Alors, ce sont des photos de grosses pièces, de machines hydrauliques, avec d'énormes vannes et un manomètre sur une. Alors, vanne de barrage, peut-être, pièce de chaudière, je ne sais. Mais c'est impressionnant. Et sur une page, vous avez donc une machine de ce genre qui est présentée, protégée du public par une superbe cordelière riche, lourde et bi ou tricolore. En noir et blanc, on peut hésiter. Ce cordon de prestige force le respect de la foule de consommateurs qui vaquent à cet endroit à des emplettes inutiles entre les enseignes connues et à peine modifiées des centres commerciaux de nos grandes villes. Alors je vois QFC, QFC, ça fait un peu sex shop, non? Oh pardon. Peut-être avec restauration assortie. C'est pas idiot comme idée. Et puis à côté, Oribo. Et puis en face, Chunel. Avec des initiales entrelacées, deux C entrelacées, mais basculées de 45 degrés. Et ça semble un signe irréfutable du cancer de la consommation capitaliste. Et un certain tonton reprend la parole. En 1929, un tsunami financier se leva, dont l'épicentre était Wall Street. Deux années durant, nous fûmes épargnés, et nous pensâmes que l'anticyclone des Açores avait dévié la vague. Mais en 1931, elle percuta la France avec sauvagerie et réveilla les nationalismes un peu éteints depuis l'affaire Dreyfus. Que se passe-t-il quand une crise s'abat sur le monde? Rien d'original. Fermeture d'entreprise, chômage, grève, tension sociale. Comment répond le gouvernement? Toujours la même rengaine. Coupe claire dans les retraites, privatisation des chemins de fer, gel du salaire des fonctionnaires. Là-dessus, une bonne guerre pour relancer l'économie. Après la guerre, amnistie générale, nationalisation, reconstruction, baby-boom, pognon, petit pavillon, saumon de Norvège, copinage entre élite et pouvoir, libéralisation. Encore plus de pognon, hôtels particuliers, cocaïne, partouze, recrise, reguerre. C'est pas vrai de s'arrêter, c'est comme ça depuis les Grecs. En cette période de crise, un certain Alexandre Stavisky, le beau Sacha pour les dames, avait détourné la coquette somme de 200 millions de francs au détriment du crédit municipal de Bayonne. Stavisky était connu de la police, ce n'était pas un coup d'essai. Mais il avait réussi à impliquer le député-maire de Bayonne, un sénateur, le ministre des colonies, l'ancien ministre de la Justice, un procureur général, deux directeurs de journaux. Et tout le monde la bouclait moyennant des enveloppes en papier kraft, celles qui font un joli bruit quand on les fourre dans la poche intérieure de son veston. L'affaire Stavisky, une affaire de corruption comme il s'en produit 20 par an, arriva aux oreilles de l'Action française, journal d'extrême droite qui fit éclater le scandale d'État. Stavisky était un juif russe nationalisé français. Il suffisait de repomper le vieux livre de Drummond pour mener une campagne de presse dénonçant la classe politique pourrie, franc-maçonne et à la botte de la juiverie internationale. Les journaux à grand tirage emboîtèrent le pas. La liste des complicités s'allongea, grand comme le bras. Le chef de la section financière du parquet de Paris, en charge de l'enquête, passa sous le train. Stavisky se suicida de deux balles tirées depuis 3 mètres. On a toujours dit qu'il avait le bras long, cet homme. Le 6 février 1934, 30 000 anciens de 14-18 défilèrent à Paris, scandant « Abat le gouvernement de voleurs !» À bas, les métèques. Beaucoup d'entre eux appartenaient à tout un tas de petites ligues d'extrême droite aux noms fleuris. Les camelots du roi, la ligue des patriotes, les croix de feu.
Le glaive dans le cerveau.
La presse se prit d'affection pour les leaders. On fit leurs portraits en première page. Ils devinrent des personnalités respectables dont on débattait les idées, certes un peu racistes, mais tellement visionnaires. Le cortège des manifestants encercla l'Assemblée nationale, puis tenta de rejoindre l'Élysée. Des discussions eurent lieu avec la police pour savoir si oui ou non c'était un coup d'État. Les manifestants disaient « On fait rien de mal, on veut juste piétiner la gueule aux députés, après quoi on se disperse dans le calme. » La police répondait « Nous, on serait plutôt pour. Seulement, si vous avancez, on devra vous taper dessus, comme de vulgaires communistes. Un ordre, c'est un ordre. » Ils avancèrent, on leur tapa dessus. 15 morts. 2 000 blessés. Le gouvernement radical socialiste de Daladier fut contraint à la démission 3 jours plus tard. À la suite de l'affaire Stavisky, la droite reprit du service. Elle rouvrit les bureaux préfectoraux de surveillance des étrangers, fit reconduire sans discrimination des centaines de milliers de Polonais à la frontière et durcit les critères du statut de réfugié politique. Les Allemands et les Italiens devaient comprendre qu'ils ne pouvaient pas tout plaquer pour venir en France à chaque fois qu'ils n'étaient pas d'accord avec Hitler ou Mussolini. En conférence de presse, Léon Blum, l'homme fort de la gauche, s'indignait. Le fascisme s'est installé en Italie et en Allemagne. En France, un maréchal, héros de la guerre de 14, pourrait très bien faire un coup d'État. Et les copains, oui, c'est vrai, exact. Nous allons unir les forces de gauche en un front populaire et nous allons remporter les élections. Alors là, il faut que je vous décrive le personnage de Léon Blum. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelait Thérèse et Léon. Et le personnage, effectivement, était parfaitement reconstitué. Alors, celui-ci, en BD, il est pas mal non plus. Alors, comment vous dire? Vous faites 2 petits ronds, presque collés, hein, oui, quasiment collés. Ce sont les yeux. Léon Blum avait des petites lunettes rondes. Et en dessous, qui touche les 2 petits ronds des lunettes, vous faites, comment on dit, des ovales ou des ovaux, hein, enfin, comme vous voulez, qui tire un peu, bon, qui, sur le dessin, ça doit faire 1 demi-centimètre, un petit peu plus, oui, voilà. Et ça dessine à peu près, ça fait 8h20, vous voyez, ce sont les moustaches de Léon. Les moustaches de Léon, donc accrochées sous les lunettes, c'est logique. Et elle dessine donc 8h20. Et par-dessus, les moustaches et les lunettes, eh bien, il y a le chapeau mou de Léon Blum. Un chapeau avec un petit peu haut, je trouve qu'il est un petit peu trop haut. Mais ça donne à l'allure, ça donne de l'allure au personnage et ça renforce cette idée qu'on a de lui, en particulier quand on a vu quelques films ou quelques photos. Il était grand et il était mince et il était aussi très élégant. Alors là on le voit grand, mince et avec un manteau très long, très élégant. Voilà. En 2 coups de cuillère à peau, vous avez un Léon Blum, je dirais plus vrai que nature. Alors Léon continue. Nous allons donc unir toutes les forces de gauche, Front populaire, etc. Nous ferons les congés payés, la semaine de 40 heures, la retraite, l'assurance chômage. Génial! On nationalisera l'industrie de l'armement, les chemins de fer, les banques. Ouais! Extra! On arrêtera les politiques sécuritaires à l'encontre des étrangers. On leur montrera que la France est une terre d'accueil. Bravo! Et on pensait que les médias, que les journaux, donc, à l'époque, allaient reproduire l'allégresse du parti de Léon Blum et ses discours. Et on voit les unes des journaux. Le complot juif, non aux juifs, les juifs au pouvoir. Les juifs, quel est leur plan? En 1936, la victoire du Front populaire fit mentir la presse qui s'était engagée dans une campagne de dénigrement sans précédent. En soutien au nouveau gouvernement, des grèves mobilisant 8 millions de travailleurs éclatèrent partout dans le pays. On occupait les usines, on défilait en se remémorant la commune, on organisait des bals et des pièces de théâtre.
Il y a 100 ans, comme une commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune, en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme une commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune. En écoutant chanter Clément, c'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot pour défendre Paris. Ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, comme une commune, comme artisans et ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme une commune, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme une commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune, ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme une commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune, écoute bien chanter.
Dans la nuit du 7 juin 1936, le patronat fut contraint d'accepter la plus grande victoire sociale de toute l'histoire de la République française, les accords de Matignon. On en parle encore. On dut s'y reprendre à plusieurs fois pour signer.
Les patrons pleuraient tellement que le papier était trempé de larmes et que l'encre s'effaçait.
Les accords de Matignon donnaient de nombreux avantages aux ouvriers, mais pour la classe moyenne, rien de tout. Alors qu'elle s'était mis tout un tas d'emprunts sur le dos pour s'acheter son fonds de commerce ou pour payer ses études de médecine, et qu'elle n'avait pas forcément des parents derrière pour se porter caution. La classe moyenne se sentait humiliée par la réduction des écarts de classe. Mais elle pouvait difficilement aller dire dans l'espace public qu'il n'y en avait que pour ces salauds d'ouvriers. Le discours national sécuritaire sut traduire ce spleen en isolant les leaders du mouvement social. et en les présentant comme des étrangers dont l'action visait à détruire la nation tout entière. En 1938, l'extrême droite en France n'avait jamais été aussi puissante, et Daladier alla trouver Léon Blum.
Mon petit Léon, c'est foutu.
Les Français en ont marre des Juifs, marre des étrangers. Ils disent qu'il vaut mieux Hitler que le Front populaire. Enfin quoi, on va pas laisser les commandes de l'Assemblée nationale au colonel de la Roque. Voilà ce que je propose. Demain, tu démissionnes,
je prends la suite,
et je m'en vais leur mitonner une politique d'extrême droite qu'ils sont pas prêts d'oublier. Au fil des vignettes, on voit Léon qui sait plus où il est.
Enfin, Édouard, t'étais de gauche avant.
Elle a dit. La gauche, la droite, qu'est-ce que ça veut dire? Hitler est moderne, national-socialiste, ça veut dire de gauche et de droite en même temps. Il a su dépasser les clivages. Qui ça, Hitler? Ah oui, j'avais compris autre chose. Après avoir obtenu les pleins pouvoirs du Parlement, Daladier fit tirer un feu d'artifice de décrets-lois qui, en moins de 6 mois, détricotèrent les avancées du Front populaire et redéployèrent l'arsenal sécuritaire à destination des étrangers. La Troisième République avait bien fait de l'inventer. Ça pouvait resservir à l'infini. Il suffisait de l'épousseter un petit peu pour faire croire que c'était nouveau. Tout le monde sautait de joie. Et juste après, Hitler s'amena par la Belgique avec ses divisions Panzer et ce fut la collaboration. Une fois le maréchal Pétain au pouvoir, il n'y eut qu'à ouvrir les placards du ministère de l'Intérieur et à se servir. Des fonctionnaires compétents étaient déjà en place. Ils envoyèrent une bonne partie de nos immigrés au service du travail obligatoire, STO, en Allemagne, et bon débarras. Quant aux Juifs, on ne va pas en parler, c'est trop triste. Vous savez aussi bien que moi qu'on a fait une grosse boulette en les confiant aux nazis. Les vignettes, sous ces quelques lignes, vous montrent un passage piéton, au milieu duquel trône un flic. Les voitures sont arrêtées devant le passage piéton et s'apprêtent à traverser une dame qui porte une étoile de David. Et le policier la protège de ses bras ouverts, lui prend même le bras, la fait traverser, l'accompagne, puis il la tire, on dirait, il la tire par le bras. Et sur la vignette suivante, on voit où est-ce qu'il l'emmène. Eh bien, il la pose dans un wagon à bestiaux, où il y a déjà pas mal de silhouettes et d'étoiles. Je ne vais pas vous refaire le coup de la période la plus sombre de notre histoire. Nos ancêtres ont collaboré. Nos ancêtres, c'est pas nous. Et même si on connaît dans notre génération des gens qui seraient prêts à recommencer, pour le moment, ils n'ont encore rien fait. Alors on peut bien prendre l'apéritif avec eux et parler d'autre chose. Il vaut mieux élever le débat et parler de la résistance. Quand 99% d'une population s'accommode bon an mal an de ses nouveaux maîtres, il y a toujours un petit 1% qui se drape dans son orgueil, qui crache à la gueule des nazis venus chez lui pour l'arrêter, puis qui saute par la fenêtre du 20e étage et qui se fracasse en bas. C'est beau l'amour de la patrie. En plus, parfois, c'était un réfugié ou une réfugiée, espagnol ou arménien ou arménienne, qui avait fui la dictature. Parce que dans la résistance, il y avait un paquet d'immigrés, italiens et espagnols et autres. La résistance, ils avaient ça dans le sang. À force de se faire traiter de rital et d'espingouin, à force de crachats sur leurs gosses à l'école, les immigrés étaient comme une cocotte minute prête à exploser. Et quand on a des gars comme ça dans la résistance, Il suffit de les déguiser en Obersturmbannführer fourreur et de les déposer devant la commandantur du coin. Repasser les prendre 20 minutes plus tard, la commandantur était en flammes, pas un seul survivant à l'intérieur. Parfois, un SS blessé surgissait à la dernière minute, mais notre homme, sans se retourner, lui lançait son couteau de chasse en plein milieu du front. Puis vint la chute du Reich, et le peuple de France fut pétrifié d'horreur lorsque parvinrent les premières images des camps de concentration. Tout le monde la bouclait et marchait tête basse. Chacun ruminait de terribles pensées. Merde. Et dire que nous étions si gaillardement antisémites avant la guerre. On était inconscients. On n'aurait peut-être pas dû. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait aboutir à ça.
Si ça se trouve, c'est notre faute. Oh non, ce serait trop horrible. Vite, donnons la Palestine aux Juifs pour expier nos péchés.
Les camps de concentration furent une bonne leçon pour tous les antisémites du monde. Et ils jurèrent, mais un peu tard, qu'on ne les y reprendrait plus. Alors qu'avant la guerre, on fourrait dans le même sac juifs et étrangers sans trop se poser de questions, après la guerre, il convint de ne plus faire d'amalgame douteux. On avait ouvert les yeux sur les antisémites, infréquentables et dangereux. On les soupçonnait d'approuver la Shoah, voire d'être révisionnistes. L'antisémitisme était un cas particulier de racisme, mais on prit soin de bien faire la différence entre les deux. On ne pouvait pas condamner les racistes ordinaires sous peine de créer un traumatisme national. Eux, c'étaient des gens normaux, élevant leurs enfants dans la dignité. C'était peut-être notre mère, notre mari, nos meilleures copines. Comment savoir?
Bye.
C'est quand même un monde. Après la Seconde Guerre mondiale, on a organisé la réconciliation. Les prisonniers de guerre français sont retournés en Allemagne. Ils sont tombés dans les bras de leurs anciens gardiens. Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, pareil. Après, on a vidé des tonneaux de bière, a spissé dessus jusqu'au petit matin, et on a recommencé un paquet de fois jusqu'à ce que soit signé le traité d'amitié franco-allemande, le 22 janvier 1963. Même pas 20 ans après la guerre, la vilaine page était tournée. On pouvait passer aux choses sérieuses
et créer le marché commun et l'Union européenne.
Et alors là, les vignettes sont sympas aussi. Alors on voit un Konrad Adenauer qui est quand même nettement plus rond que dans mes souvenirs. Il est pas très grand et il est tout rond. Et à côté, il y a un Charlot qui, lui, est nettement moins gros que dans mes souvenirs. Mais il est très long, donc ça compense. Et ils font la visite en Allemagne, ils font l'état des lieux. Et Adenauer montre à Charlot, il lui montre que les casernes sont transformées en centres culturels. Que la Panzerfabrik est devenu Volkswagen, est devenu une usine de fabrication de voitures. Que Siemens ne fabrique plus de bombes, mais qui fabrique des casseroles et de l'électroménager. Et de la même façon, l'Officer Schule, c'est plus une école militaire, c'est une université de commerce. Et il évoque une belle colombe qui porte un rameau d'olivier. Et de Gaulle est tout ému. Et de Gaulle, de son 2 mètres et quelques centimètres, je crois, lui fait un petit câlin sur la tête, et comme on tapote la tête d'un enfant. C'est très, très émouvant. Et Adenauer, ça l'énerve un peu. Alors, dans sa tête, il y a quelques pensées vicieuse. Il voit Volkswagen, un personnage qui représente Volkswagen, qui a sous son pied Monsieur Renault. Alors c'est surtout Renault, c'est pas Simca, c'est pas Peugeot, c'est Renault parce qu'on se souvient que Renault avait été nationalisé pour fait de collaboration. Voilà. Et dans une autre bulle des pensées secrètes d'Adenauer, on voit Siemens, Monsieur Siemens, qui saute à pieds joints sur notre Moulinex. Pourquoi n'a-t-on pas fait de même pour l'Algérie? Leur guerre d'indépendance date d'il y a un demi-siècle. On va pas y coucher. Il faudra bien qu'un jour un président français aille officiellement s'excuser là-bas, reconnaisse toutes les horreurs qu'on a faites, et que les anciens de chez nous, qui sont encore vivants, aillent serrer les poignes des anciens de là-bas, que ça fasse de belles images sur Internet,
que tout le monde pleure des deux côtés de la Méditerranée,
et que les affaires reprennent. Tiens, on dirait qu'il y a un président qui a lu la BD du Fleubleu, vous croyez pas? Alors, on voit Ahmed Ben Bella. On nous présente Ahmed Ben Bella et on le voit en compagnie de Charles de Gaulle, lequel Charles lui fait visiter les lieux. On voit que la caserne est devenue un centre culturel en France. On voit que les usines de chars d'assaut sont devenues des usines de 4L. On voit que l'immeuble de Matra ne fabrique plus que des machines à laver. On voit que l'école d'officiers, l'école supérieure d'officiers, donc, a été transformée en faculté de droit. Vous remarquez, à mon avis, ça n'a pas changé grand-chose. Et Charlot évoque la colombe française qui porte le rameau d'olivier. Et Ben Bella est tout ému. Et on voit Charlot qui se plie en deux. Et Ben Bella qui lui tapote affectueusement la tête dont Charlot a ôté le képi célèbre. Alors ça fait un peu bizarre, et puis on voit la dernière petite vignette là-bas tout au bout à droite. On voit que c'est De Gaulle qui fait un cauchemar et qui se réveille bouleversé. Et puis il y a Tante Yvonne à côté, elle se demande ce qui se passe. Et oui, c'est ça d'épouser des grands hommes. Après la guerre d'Algérie, la France connut une nouvelle phase de croissance économique. Après chaque guerre, c'était la même chose. Alors qu'on avait eu besoin de faire venir 500 000 immigrés de 54 à 62, il nous en fallut 2 millions pour les 10 années suivantes, sans compter le million de pieds noirs rapatriés qui n'étaient pas prévus au programme, sans compter non plus les 90 000 harkis pour lesquels on fit rouvrir les camps qui avaient accueilli les réfugiés espagnols. Pour qu'ils soient moins dépaysés, on confia la direction de ces camps aux anciens fonctionnaires coloniaux. Et les harkis s'y plurent tellement que beaucoup y vécurent pour le restant de leurs jours. Je dirais plutôt y vécurent leurs derniers instants. Il n'y avait pas qu'en France qu'on avait des guerres de décolonisation. Au Portugal, ils ont eu l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Manque de chance pour les Portugais, ils étaient gouvernés par Antonio Salazar, un dictateur, qui envoya se faire tuer là-bas chaque homme en âge de porter un fusil. Pour échapper à la conscription, les Portugais quittèrent en masse leur pays et vinrent grossir les rangs de nos immigrés. En 1974, la révolution des œillets chassa la dictature et permit d'installer la démocratie. Mais les Portugais restèrent chez nous, la preuve qu'on les traitait pas si mal que ça. Alors voilà comment on les traitait. Des vignettes sympas aussi. On voit une dame qui fait le ménage dans une bibliothèque qui monte jusqu'au plafond, la bibliothèque. Et la dame aussi, sur un escabeau, elle nettoie les vitres, la baie vitrée, pendant que sur des banquettes, disons, des banquettes très modernes, très confortables, on voit, ça me fait penser au dessin de Bret Eschet, on voit une dame, deux messieurs qui fument énormément, blablabla, blabla, philosophie, blabla, art, littérature, blabla, blablabla, philosophie, art, littérature. Et la dame est descendue de son escabeau et elle lave par terre et elle s'arrête en soupirant devant un beau portrait, ma foi. 30 secondes de répit devant un portrait. Et puis, la dame qui discutait philosophie, littérature et art paye la dame qui faisait le ménage, que l'on retrouve à l'arrêt de bus. Elle prend le bus, elle rentre dans son bidonville. Et elle qui a entendu parler de philosophie, la pauvre, toute la journée, Paul qui rentre et blablabla ciment, blablabla ciment, blablabla parpaing, blablabla mur. Et la pauvre, elle en peut plus. Elle s'écroule sur la table, elle en peut plus de gens qui racontent, et elle rentre, il faut encore qu'elle fasse la tambour. Voilà. La vie des femmes qui travaillent, ça ne s'arrête jamais. La décolonisation nous causa bien du souci, mais on a eu nos petites vengeances. Alors qu'auparavant, les indigènes de nos colonies étaient sujets de l'Empire français, et que donc, ils pouvaient naturellement se considérer comme français. Oui. Du jour au lendemain, ceux qui s'étaient installés en métropole devinrent des étrangers au sens juridique du terme. Et là, surprise, ils n'avaient plus du tout les mêmes droits que les Français de souche, ni les mêmes libertés de circulation. Et s'ils n'avaient pas un permis de séjour, on allait se faire un devoir de les renvoyer chez eux. Et les vignettes racontent comment les gens ont réagi à la nouvelle de la décolonisation. Indépendance, indépendance, tout le monde saute, danse, rigole, picole, etc. Hurlitzer toujours. Et puis, dans le café, le cafetier, il trouve que ça fait trop bruit et puis qu'il est trop tard. Alors, bien entendu, il appelle les flics. Et au commissariat, on demande nationalité. L'immigré, ben, il dit français, il avait l'habitude de dire français, hein. Togolais. Ah bon? Et hop, en camion, et alors je pense pas qu'ils aient traversé la Méditerranée en camion, mais voilà, ils ont traversé, et on voit les trois copains togolais, sénégalais, etc., qui retournent, qui sont livrés chez eux. Ils sont bien accueillis, ça peut aller. Enfin, on n'a pas été aussi vache qu'on en avait l'air. Après mai 68, on s'est aperçu que taper sur les immigrés dont on avait cruellement besoin était un peu contre-productif. L'État moderne, né avec la Ve République, eut l'intelligence de se remettre en cause et de prendre en charge leur intégration. Ce fut l'âge d'or des assistantes sociales, des éducatrices, des animatrices. En dorlotant les immigrés et en leur susurrant des mots doux, elles réussirent là où les policiers avaient échoué. Alors là, on voit une journée d'assistantes sociales. Au petit matin, au petit-déj, elle commence à invectiver son époux, lequel lui rend bien, avec quelques décibels de plus. Ça l'énerve, elle commence à taper sur les marmots. Et puis elle s'en va, elle prend sa bagnole et elle va travailler au centre d'action sociale. Et là, elle reçoit quelqu'un, elle reçoit un garçon qui pleure parce que il vient de se faire lourder par sa copine. Il est apparemment à la rue. Là, elle reçoit une jeune femme qui pleure parce que c'est elle qui s'est fait lourder par son copain. Le souffreteux suivant, ben il souffre beaucoup, oui, c'est un mendiant. Et puis la personne après, alors c'est une dame qui raconte ses malheurs parce que son mari, il est parti avec une superbe créature. Pourtant, elle était pas mal non plus. Et la dernière vignette qui représente le travail de la dame, eh ben c'est affreux parce que c'est une histoire de à quel point il est difficile d'éduquer les enfants. Là, on voit un père de famille qui vient raconter que ses enfants se battent à coups de couteau. Bon. Alors, la pauvre assistante sociale, elle n'en peut plus. Vite, vite, maison, elle dit. Elle prend sa bagnole, elle rentre à la maison, et là, Par miracle, le mari avec qui elle s'écharpait à 8 heures du matin, elle lui saute dessus avec des tas de cœurs partout et tout. Et les marmots qui arrivent, y compris des roustes à 9h15 du matin, ils comprennent pas les débordements de tendresse maternelle. Et comme ils comprennent pas, eh ben la mère, elle a une idée. Elle annonce qu'elle va faire des crêpes. Alors là, tout le monde est content. Ça change pas beaucoup. Hein. Avec la page précédente. Dans les années 70, l'extrême-gauche dénonça l'insalubrité des bidonvilles qui croissaient à la périphérie des grandes villes, car toutes ces populations arrivaient sans avoir fait construire au préalable. Pour remédier au problème, la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, Sonacotra, bâtit à la hâte des foyers en papier mâché qui devenaient vite insalubres et dans lesquels éclataient régulièrement des incendies. Les immigrés firent la grève des loyers, tout le monde s'apitoya sur leur sort funeste et on comprit à ce moment-là que l'immigré aussi avait sa fierté et une vie et des enfants à protéger. Le président Valéry Giscard d'Estaing était bien conscient que les mesures sociales favorisaient l'intégration. Il résista tant qu'il put. Mais un soir, il craqua. Il ordonna à l'ANPE de ne donner un emploi aux immigrés qu'après s'être assuré qu'aucun Français n'en voulait. Je vous raconte pas les notes de téléphone. Il proposa une prime de 10 000 francs à ceux qui retourneraient d'eux-mêmes dans leur pays. Mais ce fut un échec. Les immigrés préféraient jouer au loto pour essayer d'empocher la super cagnotte du vendredi. Il mit alors en place le retour forcé. Les CRS emmenaient les immigrés menottés dans les camions de police. Leurs femmes et leurs enfants couraient derrière. Ce fut un désastre médiatique. Là, il y a encore des dames qui se promènent avec des chiens, qui croisent des immigrés qui sont menottés, et les chiens mordent les flics. Eh oui, ça arrive. Ensuite, c'est alors que moi, François Mitterrand, j'entrais dans la danse. Jeune et beau, en 81, je me présentais pour la 3e fois à la présidentielle. Tout le monde m'avait à la bonne. Au débat télévisé d'avant le 2e tour, à un moment, Giscard fit tomber son stylo. Il était sous le bureau en train de le chercher.
J'en ai profité pour balancer cette petite phrase.
Au fait, si je suis élu, je régularise tous les sans-papiers. Quoi ? S'exclama Giscard, en se relevant et en se cognant la tête. Giscard montrait alors son vrai visage aux millions de Français qui regardaient tous, et c'était le visage d'un tocard. Dès lors, j'avais remporté l'élection. Une fois élu, je régularisais 130 000 sans-papiers sur les 300 000 estimés. C'était déjà pas mal. J'en aurais bien régularisé d'autres, une flopée. Mais la droite a mis des bâtons dans les roues, les ficelles habituelles. Bon, maintenant, c'est à vous de jouer. Je ne vais pas vous mâcher tout le travail. Vous vivez dans notre époque autant que moi. Et avec tout ce que je viens de vous raconter, vous allez pouvoir décoder par vous-même tout le discours sur l'immigration des années 80 à nos jours. Vous allez voir, c'est toujours la même tambouille depuis la 3e République. Allez hop!
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Alors on retrouve Tonton. Dans les années 70, les patrons en eurent franchement ras-le-bol des conflits sociaux qui leur coûtaient un bras à chaque fois. C'était le ras-le-bol général dans tous les pays industrialisés. Il fallait trouver la parade. Parce que si ça continuait, les gens allaient construire une société égalitaire où la croissance ne serait plus une fin en soi, et où tout le monde voudrait lire au moins une fois dans sa vie « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Ça, il faut réduire copieusement le temps de travail. Heureusement, il se produisit deux chocs pétroliers qui permirent d'installer la crise éternelle et de moderniser le capitalisme, en ayant recours au travail précaire, à la sous-traitance et aux délocalisations. Il s'ensuivit un chômage de masse qui frappa de plein fouet les ouvriers peu qualifiés et davantage encore les immigrés analphabètes. Ce nouvel esprit du capitalisme eut de lourdes conséquences. Alors là, le tonton, il vous propose un petit test d'analyse politique. Vous prenez un bout de papier que vous divisez en trois colonnes, A, B et C. Et horizontalement, vous prévoyez 8 lignes horizontales. Et maintenant, dans ce tableau, vous allez enregistrer les réponses aux questions du tonton. Alors, La première question, ce nouvel esprit du capitalisme a eu pour conséquence, soit, réponse A éventuellement, rassurer les gens, enfin leur vie professionnelle avait du sens. C'était stimulant de savoir qu'on pouvait perdre son boulot du jour au lendemain. Et on voit un pauvre employé complètement épuisé, survolté, surmené. Il a au moins 5 ou 6 ou 7 bras à chacun. Au bout de chacun, de chaque bras, il y a un dossier, une enveloppe, un papier, une liste. Il y a une main qui tient un téléphone, l'autre qui est sur le clavier, l'autre qui balance quelque chose à la poubelle, et on le voit prêt à exploser. La deuxième vignette, il a explosé. On voit sa tête, et surtout on voit le cœur qui est sorti de son tronc. Le cœur, il est sorti en morceaux. Il n'est pas amoureux, non. Il a un infarctus. Et il s'écroule sur la troisième vignette, il s'écroule sur son bureau. Et le patron arrive en rouspétant. Il n'a pas compris. Il croit qu'il dort, mais non, il ne dort pas du tout. Il ne dormira plus, d'ailleurs. Le burn-out est total. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça la conséquence du nouvel esprit du capitalisme, est-ce que c'est réponse A, rassurer les gens, leur vie professionnelle aura du sens, c'est stimulant de savoir qu'on peut perdre son boulot du jour au lendemain. Ou au contraire, est-ce que c'est la réponse B? Alors la réponse B, ça serait détruire peu à peu les organisations ouvrières créées depuis la fin du 19e, ridiculiser les syndicalistes, rendre désuet le militantisme, faire de Karl Marx et de Che Guevara des icônes pour t-shirts à manches courtes. Et la vignette correspondante est démoralisante. On voit des affiches publicitaires absolument lamentables, et surtout le pire, on voit un quidam qui se promène avec le journal ouvert, et sur la quatrième de couverture, on voit « L'imagination au pouvoir d'achat ». Ouais. Troisième réponse possible. Rendre les gens un peu plus individualistes, c'était pas plus mal, car on pouvait croiser un collègue au supermarché sans être obligé de lui adresser la parole, alors qu'avant, ça prenait des plombes. Et les deux vignettes assorties représentent donc deux collègues de bureau qui se croisent au supermarché, ils se sont vus de loin, donc ils détournent la tête pour ne pas se saluer, et comme ils ne voient plus où ils roulent, eh bien évidemment, ça finit avec un caddie par terre. Et là, ils se saluent avec déférence. Vous avez donc choisi votre réponse en cochant sur la première des 8 lignes horizontales, en cochant donc dans la colonne A, B ou C. C'est ça? Ok? On continue. Deuxième question. Comme au bon vieux temps de Jules Ferry, qui avait instauré les lois sur la liberté de la presse, la gauche des années 80 abolit le monopole de l'État sur la radio et la télévision et supprima le plafond de 25% sur les recettes publicitaires. Que se passa-t-il ensuite? Réponse A. Des capitaines d'industrie du BTP et de l'armement, qui avaient fait fortune grâce aux commandes publiques, rachetèrent l'ensemble de ces nouveaux médias. Ils purent rendre à la société ce qu'elle leur avait donné en éduquant les gens, en leur apprenant à ne plus avoir confiance en l'État-providence. Cette vaste blague! Et la vignette correspondant à cette première réponse possible nous montre un homme viril plein de poils, ou du moins on le suppose, installé vautré dans un fauteuil devant la télé, qui émet comme message rassurant « On retrouve le Big Deal après une page de pub ». Et par la porte ouverte, on voit, dans la cuisine, une femme avec un tablier, les mains dans la vaisselle, qui écoute le message de la radio. On retrouve les grosses têtes après une page de pub. Et on aborde la deuxième réponse possible. Les gens créèrent des télévisions et des radios affranchies des contraintes commerciales. Les anciens médias périclitèrent, les présentateurs vedettes et les chroniqueurs économiques pointèrent à la NPE. Les directeurs d'instituts de sondage s'ouvrirent les veines dans leurs bains, les publicitaires passèrent le concours de profs d'art plastique. La vignette assortie nous montre monsieur et madame tendrement enlacés avec tout de même chacun une main de libre pour tenir un verre d'apéritif. Et la télévision leur délivre comme message « On se retrouve après une page de Proust lue par Denis Podalydès. » Alors si vous êtes d'avis que c'est ce qui s'est passé ensuite, eh bien, vous cochez ça dans la case B. Mais il y a aussi la case C, la colonne C. Que se passa-t-il ensuite? Pas grand-chose. Télé publique ou télé privée, les deux ont leurs avantages. J'aime autant regarder une grosse connerie sur TF1 qu'un bon reportage sur Arte. Ça dépend de mon humeur. Et là, on voit qu'il y a une évolution. On voit devant la télé avec un verre d'apéritif madame, à qui la télé répète « On retrouve le Big Deal après une page de pub » et à la cuisine, les mains dans la vaisselle, avec un gros tablier, il y a monsieur qui attend d'écouter les grosses têtes après une page de pub. Ça y est, votre deuxième ligne est remplie ? Vous avez donc deux croix jusqu'à présent. Et maintenant, on continue. Comme je vous le disais, en arrivant au pouvoir en 81, j'avais pris tout un tas de mesures en faveur des immigrés. Régularisation des sans-papiers, interdiction de renvoyer chez eux les enfants étrangers, obligation pour les Français d'offrir des bonbons et des stylos aux immigrés croisés dans la rue. Survint alors un incident qui habituellement ne faisait que la rubrique des faits divers de la presse locale. En périphérie de Lyon, la banlieue des Minguettes s'enflamma. Les jeunes d'origine maghrébine prétendaient qu'ils subissaient le racisme au quotidien. Ils caillassèrent les forces de l'ordre, brûlèrent des voitures, firent de gros doigts aux journalistes. Alors, dans ce climat délétère, le thème national sécuritaire fut au cœur de la bataille des municipales de 1983, tandis que Jean-Marie Le Pen, leader d'un parti d'extrême droite insignifiant, était invité partout dans les médias pour donner son opinion qui faisait penser à ce que l'on lisait de meilleur dans la presse sous Vichy. Est-ce que c'était ça qui s'est passé? Ou bien, grand B, que se passa-t-il alors? Il se passa rien du tout. Tout le monde se moquait de ces jeunes excités, ils firent un peu de prison bien méritée, et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Et on voit la vignette assortie, on voit dans une garde à vue, on voit trois gars derrière les barreaux qui rigolent comme des baleines avec le gardien de l'autre côté des barreaux, on se demande qui c'est qui est en prison, et ils rient tous à gorge déployée en racontant un incendie de voiture. Racontant le pauvre bourgeois qui pleure sa bagnole. Alors, que s'est-il passé alors? Est-ce que ce ne serait pas la réponse C Ces images des jeunes passèrent en boucle au journal de 20 heures. Les gens devant leur télé se demandaient si ça n'allait pas péter sous leurs fenêtres. Soudain, un grand bruit retentit. On appela la police illico. Mais c'était Michel, le voisin, qui rentrait encore bourré et qui avait embouti sa voiture.
Et on voit Michel qui pleure. Ma bagnole.
J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous fils de France, au pays des lumières, amnésie suicidaire.
Qu'on a fait et pour ce qu'on fera, pour le poing qu'on a levé, de celui qu'on lèvera, pour un idéal, pour une utopie. Alors marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui, ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. Hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Nous n'oublierons jamais que nous sommes, nous serons les fils de la résistance, fils de France. Au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les bornes sont les rois.
Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes la nation de la tolérance. Nous sommes la nation des lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes la nation des lumières, nous sommes à l'heure de la résistance.
Merci à Damien Saez. Nous sommes la patrie des droits de l'homme, à l'heure de la résistance. Et retrouvons Mitterrand pour la quatrième question. Parallèlement à cet increvable thème des banlieues, une autre ritournelle concernant les immigrés d'origine maghrébine s'imposa peu à peu. Première possibilité. Grand-temps. Tous les Arabes sont des intégristes musulmans qui battent leurs femmes et voilent leurs enfants. Les imams leur bourrent le crâne à la mosquée, ils appellent à égorger les occidentaux. D'accord, il ne faut pas caricaturer, il y a des arabes qui sont respectueux. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'entêtent à porter la barbe? Ils doivent bien se rendre compte que ça nous fout les jetons. Et là, il y a deux vignettes extraordinaires. Alors, dans la rue, on voit probablement un musulman qui se promène avec une barbe gigantesque, et on voit les gens autour qui ont l'air complètement terrorisés, et le chien aussi, et les enfants. Il arrive chez lui, il ferme la porte, et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, il détache sa barbe, parce qu'il y a son frère ou son cousin qui dit « à mon tour ». Ça, j'adore. Réponse B. Le problème, c'est que les immigrés écoutent la télé toute la journée. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'on les traîne dans la boue. À peine sortis de chez eux, ils se font contrôler par la police, alors qu'ils sont installés en France depuis 3 générations. Au moins, leurs grands-parents ne savaient pas lire ce qui s'imprimait dans les journaux pendant la guerre d'Algérie. Ils ne s'en rendaient pas compte. Réponse C. L'islam vaut largement le christianisme, le judaïsme ou même le bouddhisme. La République française respecte tous les croyants du monde. Les Arabes, eux, c'est l'islam.
C'est rarement le vaudou.
Et Mitterrand toujours. Ah oui, c'est ça qui est marrant aussi. Les Arabes ou les Noirs installés chez nous depuis plusieurs générations, donc nés en France, et qui connaissent à peine leurs cousins en Tunisie ou au Sénégal, dans notre regard, ils restent toujours des immigrés. Avec les Polonais ou les Portugais, c'était plus facile. Ils étaient blancs et catholiques, et dès qu'on ne savait plus qu'ils venaient d'ailleurs, on croyait qu'ils étaient d'ici. Pour les Noirs, les Arabes, les Chinois et les Pakistanais, comment faire? Que ceux qui trouvent la solution nous écrivent. Ils ont gagné. À la suite de la révolte des Minguettes, et parce qu'un jeune de la cité avait été passé à tabac par la police, une association d'immigrés organisa la Grande Marche pour l'égalité et contre le racisme. Ils partirent de Marseille dans l'indifférence générale. Quand ils arrivèrent à Paris, ils étaient devenus des stars. Pourquoi? Vous avez de nouveau le choix entre 3 réponses. Alors, réponse A. Parce que le journal Le Figaro avait appelé cette marche la Grande Marche des Mounous. Ça avait quand même plus de gueule. Réponse B. Parce que le journal Libération avait appelé cette marche la Grande Marche des Beurs. Ça avait quand même plus de gueule. Beurre, c'est comme black. Ça montrait qu'on n'était pas raciste. Et puis, on pouvait faire plein de jeux de mots en couverture. Appelé beurre d'ail. C'est quoi ce beurre d'ail? Beurre salé ou ordinaire? Et là, on fait une petite incursion dans les salles de rédaction de Libération d'abord. Alors, on a 3 journalistes à table, et puis on a le patron, qui devait être Serge Joly, si je ne me trompe, à l'époque. Et ils cherchent comment ils vont faire la une. Et il y en a un, le premier, qui est pas tout à fait attifé de la même façon que les autres journalistes, qui dit, eh ben on pourrait dire le complot beurre. Et Serge Joly, ça lui plaît pas du tout, ça. Et puis, on voit la vignette suivante, ce gars qui était légèrement habillé différemment des autres journalistes, qui se présente tout honteux devant un autre patron de presse, derrière lequel il y a un grand panneau. Minute.
Et il gémit. Je me suis fait repérer.
Alors, 3e réponse possible, c'est « Désolé, j'en avais jamais entendu parler de cette marche. » Ça y est, vous avez déjà 5 croix réparties dans les 3 colonnes? Alors on peut continuer. C'est la 6e question. Ainsi, la presse et les hommes politiques avaient-ils déserté le terrain des idées au profit de la com et de la blague facile? Pour exister dans le débat public, il fallait désormais coller à l'actualité, utiliser le fait divers pour imposer sa vision du monde, créer le scandale. À ce petit jeu, les idées de l'extrême droite furent adoptées par l'ensemble des médias qui trouvaient toujours un moyen de les accommoder à leur sauce. Ça vous rappelle rien? Ça peut suggérer 3 réponses possibles. Première réponse, grand A. Exactement, comme à la fin du 19e siècle, quand la presse s'en prenait aux Juifs et aux étrangers qui allaient conduire la France à sa perte. Heureusement, il y eut la Première Guerre mondiale, et après, la presse redevient plus sérieuse, tout de même. Alors, réponse B, exactement comme dans les années 30, quand la presse s'en prenait aux Juifs et aux étrangers qui allaient conduire la France à sa perte. Heureusement, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et après, la presse redevint plus sérieuse quand même. Ou alors, réponse C, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on vit encore là-dedans et qu'il suffit de remplacer le mot « juif » par le mot « arabe » ? Vous y allez un peu fort, mon vieux. Si vous voulez nous faire croire qu'on se dirige vers la Troisième Guerre mondiale, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Les gens n'iront jamais se battre. Aujourd'hui, plus personne n'est patriote. 7e question. C'est à cette époque que la gauche capitule. Comme disait mon deuxième premier ministre, l'extrême droite, ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Par la suite, les gouvernements qui se succédèrent, de gauche comme de droite, tombèrent d'accord sur la question des immigrés. Quel type de loi firent-ils voter? Réponse A. Des lois sécuritaires, les lois Pasqua, Toubon, Debré, Cresson, Cousteau, Jox, Chevènement, Sarkozy. Fastoche! Dans la presse, il n'y en avait que pour les charters, les centres de rétention, les contrôles d'identité, la double peine. J'ai bon? Réponse B. Des lois pour installer des centrales nucléaires partout en France. Ah non, mince, c'est pas débattu à l'Assemblée nationale. Ces décisions sont prises directement à l'Élysée. Ça ne nous concerne pas vraiment. Réponse C. Des lois pour maintenir la domination de la France sur nos anciennes colonies d'Afrique. Ah non, mince, c'est pas débattu à l'Assemblée nationale. Ces décisions sont prises directement à l'Élysée. Ça ne nous concerne pas vraiment. Et les vignettes sont très bien assorties. Vous irez les voir vous-même. Et on arrive à la dernière ligne de notre tableau. 8e question. Le bourrage de crâne que nous subissons depuis l'invention de la presse a façonné nos manières de penser. Attendez, vous allez voir. Si je vous dis « problème de l'immigration », vous me répondez quoi? Réponse A. Voile islamique, tchador, burqa, tournante dans les caves. Et là, il y a deux vignettes. Il mérite la lecture. On voit une femme avec une burqa dans la rue, Et tout le monde qui s'épouvante, qui lève les bras au ciel, etc. Et la vignette de dessous, probablement la même dame, qui arrive dans un local qui est fermé, on voit pas de fenêtre, et elle retrouve deux autres femmes qui ont l'air en pleine forme, qui ont l'air un peu sonnées, mais enchantées de l'être, qui rigolent tant qu'elles peuvent. Et la dame qui avait sa burqa, qui enlève le voile de son visage, et qu'est-ce qu'elle dit, cette dame? Elle dit « À mon tour !» Alors, réponse B. Il n'y a pas de problème d'immigration, il y a un problème de pauvreté. L'immigré, avant d'être quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est d'abord un pauvre. Un pauvre belge, un pauvre italien, un pauvre portugais, un pauvre espagnol ou polonais, ou algérien ou sénégalais. Et tous ces pauvres font ensemble des tournantes dans les câbles. Alors, les tournantes dans les câbles, le match tournant dans la cave, là on voit quatre personnages qui jouent au ping-pong dans une cave. Effectivement, il y a un petit hublot qui donne une très faible lumière juste sur la table de ping-pong. Oui. Voilà la tournante dans la cave. Et puis la réponse C. Vous êtes déjà allé en vacances au Maroc ou en Tunisie? Ils sont vachement accueillants. Là-bas, je prends toujours un guide. Je lui donne une bonne petite pièce. Comme ça, il pourra se payer une prostituée au lieu de faire une tournante dans une cave. On voit le guide qui prend un billet et qui prend son baluchon sur son épaule et qui court, qui court, qui court vers la France parce que c'est là qu'il va trouver une prostituée. Voilà, l'interro est terminé. Dit tonton, faites le compte des réponses A, B ou C. Et maintenant, vous allez savoir quel genre d'individu vous êtes. Alors, si vous avez plus de réponses A, vous êtes de droite. La droite, il en faut. Ça permet de faire avancer les choses, sinon on stagnerait. Si vous avez plus de réponses B, vous êtes de gauche. La gauche, c'est bien aussi. On n'est plus au temps des cavernes. Si vous avez plus de réponses C, vous êtes centriste. Vous vous entendez bien avec tout le monde. Heureusement qu'il y a des gens comme vous. Bon, ben je vais pas vous retenir plus longtemps. Vous l'aurez compris, en démocratie, toutes les opinions se valent. La démocratie, c'est super important. On ne va pas faire la révolution chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec son voisin. Et ça, les immigrés l'ont bien intégré. Ceux qui réussissent dans la vie en devenant joueurs de foot, comiques ou éditeurs de bandes dessinées montrent l'exemple aux autres. C'est un premier pas. Parce que les immigrés qui sont riches, franchement, ils ne posent pas souvent de problèmes, sauf quand ils prennent de la drogue, mais ça... Aucun présentateur d'émissions télévisées n'est à l'abri. Le système, aussi imparfait soit-il avec sa crise, ses dettes des États, son taux de chômage astronomique, ses pauvres Français et immigrés, sans oublier les Roms, il donne sa chance à tout le monde et il arrive quand même à rendre la majorité des gens heureux. Ceux qui ne le sont pas, ont aussi le droit de s'exprimer, et qu'est-ce qu'ils répondent quand on leur demande comment ils voient l'avenir? Qu'un de ces quatre y seront riches et qui prendront leur revanche. C'est chouette! Au revoir! À bientôt! À bientôt, tonton! Il est peut-être pas superflu de préciser que ce sont bien les propos de François Mitterrand ou ceux qu'on lui prête que l'on retrouve jusqu'à la fin de cette émission.
Ne me collez pas tout sur le dos, quand même. À bientôt, vous tous. Si cette émission vous a plu autant que la précédente, eh ben, je vous ferai un petit Noël avec une histoire de Texas qui n'a rien à voir avec une histoire de Dallas, mais avec l'histoire du capitalisme. Et c'est pas piqué des vers. Ça sera toujours le fleubeleu. Joyeux Noël avec le fleubeleu. Merci. Vous retrouverez tout ça sur Canal Sud et pendant les vacances, ça sera pas en direct, mais vous le retrouverez aussi sur le site www.canalsud.net. Rubrique, chronique art contre histoire. Voilà. Merci.